Il m'était impossible de penser à quoi que ce soit d'autre. Cela faisait 2 jours que nous errions dans la forêt. Car nous n'étions pas au Sahara, mais dans la jungle amazonienne. Et je commençais à réaliser ce que peut souffrir un homme qui meurt de soif. Depuis longtemps, nos gourdes étaient vides, et de plus, nous nous étions perdus. Je savais bien que les Indiens qui m'accompagnaient finiraient par trouver à boire, car ces hommes sont d'une habileté extraordinaire pour découvrir ces cours d'eau qui traversent l'immense forêt. Seulement, est-ce que moi je tiendrais le coup jusque-là? Aurais-je la force de marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent le merveilleux liquide après lequel nous soupirions tous? J'en doutais un peu. Les jours précédents, nous avions quitté notre camp établi au bord d'une rivière et après avoir épuisé le peu d'eau que nous avions emporté, nous avions marché des heures et des heures dans une chaleur accablante sans jamais pouvoir nous désaltérer. Puis nous nous étions arrêtés pour la nuit sans songer même à manger tant nous avions la bouche desséchée. Mon sommeil avait été peuplé de cauchemars étranges dans lesquels je trouvais de l'eau, mais que je n'arrivais pas à boire. Je me réveillais et je me rendormais en proie à une soif toujours plus intense. Puis nous avions entamé la deuxième journée de marche. Combien de temps encore pourrais-je avancer sans avaler ne serait-ce qu'une goutte d'eau? Toujours rien. Pas le moindre signe annonciateur de la présence d'un cours d'eau. Mes amis indiens ne laissaient pas paraître leur détresse. Impassibles comme les Asiatiques, dont ils sont censés descendre, ils n'avaient pas l'habitude de laisser leur visage refléter leurs sentiments. D'ailleurs, ils ne manifestèrent pas non plus une joie débordante quand, enfin, par la grâce de Dieu, la délivrance arriva. Mais voici comment le secours nous vint. C'était l'après-midi du deuxième jour de marche. Le terrain s'était un peu modifié et la végétation aussi. Nous avancions toujours aussi péniblement lorsque, tout à coup, les Indiens s'arrêtèrent et dirent simplement « hi-hi », ce qui, dans leur langue, veut dire « eau, de l'eau ». Se moquaient-ils de moi ? J'avais beau scruter les alentours d'un regard éperdu et tendre l'oreille, je ne voyais ni n'entendais rien qui puisse indiquer la présence d'un cours d'eau. Cependant, les deux hommes semblaient avoir parlé sérieusement. Ils avaient posé leurs bagages sur le sol et déjà l'un d'eux en tirait sa gourde. Lorsque je leur demandai où se trouvait cette eau tant désirée, ils me montrèrent une sorte de vigne vierge dont le tronc, épais comme un câble, s'enroulait autour d'un arbre et dont le feuillage tombait comme un rideau. En hâte, je sortis ma machette pour couper la vigne, mais l'un des hommes me repoussa brutalement. « Si tu fais ça, pas d'eau !» dit-il. Et il ajouta, « Il faut monter là-haut d'abord. » Déjà, son ami, agile comme un singe, grimpait à l'arbre d'où pendait le rideau de verdure, en me criant de tenir fermement le tronc de la vigne. Je le pris des deux mains, perplexe, mais surtout désireux de ne pas perdre une goutte du précieux liquide que nous aurions bientôt. Puis l'Indien redescendit, et il coupa la vigne à la hauteur de mes genoux, tandis que son camarade tenait la gourde sous l'entaille. Et l'eau jaillit. Elle n'était ni propre, ni fraîche, mais c'était de l'eau enfin. Comme elle me sembla délicieuse, malgré la mousse étrange qui coulait avec elle. Cette eau me rendait la vie, ni plus ni moins. Alors je me sentis un homme nouveau, et je pus reprendre la marche avec les Indiens qui, eux aussi, avaient pris de nouvelles forces. Plus tard, vint à nos oreilles le murmure bienvenu d'un ruisseau où se trouvait de l'eau en abondance, de l'eau pure et fraîche cette fois. C'était merveilleux. J'ai souvent repensé à cette inoubliable expérience, à cette eau qui m'avait sauvé la vie. Je songe aussi avec émoi que j'ai failli passer à côté par ignorance, puisque, apparemment, si j'avais coupé le cep à ma hauteur, nous aurions été privés du précieux liquide. Pour qu'il s'écoule dans la gourde, il avait fallu d'abord qu'il se passe quelque chose là-haut, dans l'arbre, au-dessus de nous. Plus j'y pense, plus j'y vois une image de la façon dont Dieu donne la vie éternelle aux hommes qui en ont soif. De même que ce fut pour moi un instant ineffable lorsque je pus enfin humecter mes lèvres à la source vivifiante. De même, c'est une expérience extraordinaire pour quelqu'un qui a soif de Dieu quand il rencontre le Seigneur Jésus et reçoit de lui l'eau de la vie. Mais cette eau-là, nous ne pourrons jamais l'obtenir par nos propres efforts. Comme ce fut le cas pour nous dans la forêt, il doit y avoir d'abord une action en haut. Ce geste qui sauve, Dieu l'a fait en donnant son Fils pour nous. Par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus a permis que jaillisse l'eau de la vie offerte au monde pour désaltérer tous ceux dont le cœur a soif. Inutile de vouloir apaiser cette soif par nos propres moyens. Alors demandons plutôt à Jésus de nous désaltérer. Nous boirons alors à longs traits cette eau merveilleuse qui satisfait vraiment l'être humain dans ses soifs les plus profondes. Personne n'a besoin de souffrir de soif spirituelle, car Jésus a tout accompli sur la croix pour notre salut. Et il a dit, « Je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie. »